Bon. C'est classique. On va dire que le fait que je diffuse des épisodes de manière sporadique, c'est un peu ma marque de fabrique, d'accord? C'est genre voulu. On est d'accord ou pas sur ça? Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver avec un texte beaucoup plus récent que les textes qu'on a l'habitude d'étudier, puisque nous allons étudier la pigeonnette blanche, une autre version de la barbe bleue, et que cette pigeonnette blanche est un conte qui est issu de la tradition pyrénéenne, et plus exactement des Pyrénées orientales. Donc ce conte, c'est un conte qui a été collecté par Gaston Maugard, qui a publié un recueil de contes appelé « Contes des Pyrénées » en 1955, dans lequel il a collecté des contes en allant dans des maisons et en demandant à ce qu'on lui raconte, et qu'il l'écrive lui en même temps, ces contes pour pouvoir les diffuser par la suite. Donc on est vraiment sur la véritable tradition des contes, on est dans une démarche qui se rapproche de celle des frères Grimm, et ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque conte, Gaston Maugard précise quelles personnes lui ont raconté cette histoire. Donc là, en l'occurrence, pour la pigeonnette blanche, il s'agit de Monsieur Édouard Peille à Camgast-Puyvert en avril 1950. Je suis sûre de tuer le nom de la ville, enfin on verra. Notez ensuite auprès de Monsieur B. Sadourny à Camp-Sadourny, près Puyvert. En septembre 1950. La formule est connue par d'autres personnes de la contrée. Donc ça, je vous lis le sous-texte qu'il y a et que Maugard nous fournit dans son édition des Contes des Pyrénées. Sachez que cette édition est toujours disponible, elle est disponible aux éditions Erasme, et si vous voulez la procurer, c'est vraiment très très intéressant, et on est sur la véritable tradition orale des contes. Voilà pour la présentation, je vais pas plus me pencher sur l'auteur, tout simplement, puisque comme je vous l'ai dit, Monsieur Maugard n'est pas un auteur, mais plus un collecteur de contes. On est plus dans une démarche sociologique, anthropologique, qu'une démarche littéraire. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai trouvé très peu d'informations sur lui. D'après mes recherches, il serait encore en vie, très âgé, mais encore en vie. Mais je ne peux pas affirmer cela, c'est vraiment très difficile de retrouver sa trace. Voilà. En tout cas, cette version de la pigeonnette blanche est une version qui est assez connue, en effet, une version qu'on retrouve dans d'autres traditions et dans d'autres régions. Mais là, on va se focaliser sur cette version écrite, et ce qui est très intéressant dans cette version, c'est qu'on a des moments où Gaston Maugard nous indique la traduction, en occitan, des phrases qui sont dites et répétées, notamment dans les dialogues, dans le conte. Donc je trouve que c'est vraiment génial parce que ça nous montre vraiment ce côté tradition orale. On va pouvoir passer au résumé. Alors, le résumé. On a un prince et une princesse qui vivent ensemble dans un château et qui ont deux enfants. Le fils fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il épouse une autre princesse et qu'il réside avec ses parents dans la demeure familiale, comme il convient, quand il a 20 ans. Mais la jeune fille, elle, a des rêves un peu extraordinaires, extravagants, je cite le texte quand je dis extravagant. Et en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne veut pas se marier, sauf si cet homme, avec qui ses parents voudraient la marier, a la barbe bleue. Tout le monde pense que ce sont des caprices, et puis un beau jour arrive un homme très grand, très fort, qu'on surnomme l'ogre d'ailleurs, hein, le géant, qui a une barbe bleue. Cet homme est non seulement fort en apparence, avec un physique voilà très viril, très masculin pour l'époque, mais en plus, il est aussi très doué à la chasse. C'est vraiment, on va dire, l'emblème même de l'homme viril du patriarcat. Voilà, on est en plein dedans. Et donc, la jeune femme est d'accord. Elle l'épouse, mais quand même, la mère de la jeune femme, avant de partir, lui dit qu'il lui faut qu'elle lui fasse un cadeau pour l'aider à la protéger. Et ce cadeau, ce sont trois petites pigeonnettes. Donc trois petits pigeons féminins. Une pigeonnette rouge si tout va bien, une pigeonnette noire s'il y a un grand malheur et une pigeonnette blanche si la jeune femme est malade. Donc elle part, elle emménage avec son mari et puis son mari, comme dans Barbe Bleue, part en lui laissant les clés du château et en lui interdisant une des pièces. Ce qui est intéressant, c'est que là, est précisé qu'il y a 9 clés pour 9 pièces, on reviendra sur cette symbolique. Bref, la jeune femme cède à sa curiosité, rentre dans la pièce interdite et découvre 8 cadavres de femmes, toutes pendues par des crochets de boucher par le menton, au mur, enfin au plafond. Elle fait tomber la clé se tache de sang, impossible d'enlever le sang de la clé, et donc quand le seigneur des lieux revient plus tôt que prévu, il retrouve la clé et il dit à sa femme qu'il va falloir mourir. Sa femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui dit d'accord, et lui dit que pour mourir, il faut qu'elle aille revêtir ses habits de mariage. Et donc elle monte et elle envoie la pigeonnette noire auprès de ses parents. Et elle demande à la pigeonnette blanche de veiller au retour de la pigeonnette noire et de voir si les parents ont bien eu le message de leur fille. Et donc là va s'en suivre tout un jeu de réponses marquées par le déshabillement de la jeune femme. Donc en fait, l'ogre est en bas, il a une marmite, il fait bouillir de l'huile pour tuer la jeune fille. Il est là et va-tu descendre? Et elle lui répond, non, j'enlève ma chemise, non, je mets ma robe, je mets ma couronne. Et en même temps, elle demande toujours à sa pigeonnette blanche, ne vois-tu rien venir? Et la pigeonnette lui répond non, jusqu'à ce qu'elle voit arriver deux cavaliers qui sont le père et le frère de la jeune fille, qui arrivent. Et là, c'est une scène qui est un peu étrange. On pourrait penser que comme dans Barbe Bleue, ils arrivent, ils tuent le mari et c'est fini. Mais là, non. Le mari les voit arriver, hop, change de ton, et leur dit que c'est parfait. Sa femme s'est mise sur son 31 pour faire un déjeuner tous ensemble et que c'est super, ils vont pouvoir festoyer. Tout le monde se met autour de la table. Voilà. Et puis, ils font en sorte que le géant s'endorme. Et ensuite, il l'ébouillante, il le tue en lui faisant boire l'huile bouillante, en fait. Et c'est ainsi qu'il le tue, et ils héritent du château. Et tout le monde vit très heureux, dans le meilleur des mondes. Sauf que la conclusion est un peu différente de toutes les conclusions. C'est-à-dire que l'auteur dit que, eh bien, ces gens qui ont tué sont impunis, et en plus récupèrent le château, et que, eh bien, c'est comme dans toute société, ce sont toujours les plus riches qui profitent de tout. Et c'est la morale de l'histoire. J'ai trouvé ça absolument incroyable. On ne s'y attend pas du tout. Donc voilà pour notre résumé. C'est vraiment un conte très court, ça se lit très vite, et vraiment c'est bien. Donc je vous conseille. On va maintenant passer à l'analyse, et on va bien s'amuser. Je vous préviens, c'est un petit peu politique, hein, mais comme d'hab, vous me connaissez. La structure familiale du conte, on va commencer par ça, est assez classique. On a en effet des parents qui veulent marier leur fille. Ce qui est intéressant, c'est que là on a un frère, ce qui est peu commun, c'est souvent un enfant unique en général, et que le frère incarne l'ordre et l'obéissance. On est vraiment dans l'incarnation du devoir dans une société patriarcale. Et c'est très bien dit dans le texte, c'est « Lorsque le jeune homme eut 20 ans, il se maria et résida dans la demeure de ses pères, comme il convient. » La jeune fille, elle, contrebalance cette structure patriarcale et incarne ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire l'excès féminin, cette fameuse hystérie teintée de caprice qu'on reconnaît bien dans les contes, en général, quand on a une jeune femme qui n'obéit pas. Donc, elle, on dit qu'elle est extravagante, qu'elle veut faire les choses obstinément, elle refusait obstinément tous les partis. Et puis, on va parler plus loin de ses caprices. On parle d'elle comme une enfant capricieuse. Donc vraiment, on a cette représentation extrêmement manichéenne du jeune homme qui fait ce qu'il convient de faire, qui incarne les valeurs de la famille et de la société et qui les perpétue, et de cette jeune femme qui refuse de se marier et qui veut bien se marier, mais avec une idée un peu farfelue, à savoir cet homme à la barbe bleue. Ce qu'on analysera après, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est la figure de la mère. Parce que la figure du père, on est aussi sur une figure extrêmement patriarcale. Il vient, et qu'est-ce qu'il fait quand il trouve sa fille malmenée par ce géant? Il attend, il festoie avec, il le tue, il récupère le château, ce côté très intéressé et tout. Voilà, enfin, là encore, on est dans une représentation classique de l'homme dans une société beaucoup plus ancienne que la nôtre, j'ose l'espérer. Mais voilà, enfin, c'est pas du tout une représentation, comment dire, novatrice. Mais la mère, elle, est intéressante. Normalement, on a soit des mères très actives, c'est-à-dire que ce sont les mères qui font des vœux. On avait vu ça, par exemple, dans Le Roi Porc, ou Le Prince Marcassin. Là, en l'occurrence, cette mère-là ne fait pas de vœux, c'est pas une mère très active, ou une mère totalement passive, et ça aussi, on en a très clairement, soit elle meurt, soit elle n'existe pas. Non, là, on est sur une mère qui sait que pour sa fille, il risque de se passer quelque chose, et qui va donc essayer de protéger sa fille. Et il est dit, quand elle donne le cadeau à sa fille, la mère qui aimait sa fille lui fit ses confidences. Donc on a et la notion de secret et la notion d'amour. Ce qui justifie l'acte de la mère, c'est la protection, c'est l'amour qu'elle porte à sa fille. Et les confidences, c'est bien le secret entre deux femmes qui tentent de se protéger dans une société qui n'est pas forcément à leur avantage. Donc, c'est très très intéressant comme structure. Dès le début, ça se pose, assez manichéen, mais en même temps avec une grande critique de la société. Quant à la barbe bleue, on n'a que des substantifs pour le décrire qui sont dans l'hyperbole. C'est-à-dire que on va toujours souligner sa supériorité et l'idée d'appartenance, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir un pouvoir sur les gens et qui va avoir une certaine capacité à posséder les gens. Donc on parle de maître, de seigneur. On dit bien il est un géant, voilà, on le rappelle, et on rappelle que son aptitude qui ressort le plus, ce en quoi il est le plus doué, c'est la chasse. Donc dès le début, Barbe Bleue se pose comme un prédateur. Comme un prédateur et comme incarnant toutes les valeurs que l'on cherche dans un homme, c'est-à-dire un homme capable de chasser et protéger normalement sa dulcinée. Ça ne va pas être le cas là, en l'occurrence, puisqu'il va plutôt la tester. Ce qui est intéressant, c'est que la jeune femme, quand elle se marie, est souvent appelée la dame, sa femme, on va dire donc lui, il l'appelle femme, enfin voilà. Mais il y a un moment quand même où on précise qu'elle est la châtelaine. Et ce moment, quand on dit qu'elle est la châtelaine, c'est le moment où elle rentre dans le château et qu'elle essaye de visiter le château malgré l'interdiction de son mari. Donc on rappelle quand même qu'elle est maîtresse des lieux. Donc il y a toute cette structure qui est vraiment assez intéressante, c'est qu'on a à la fois des parents qui sont classiques pour les contes, mais une mère qui est beaucoup plus investie et protectrice. On a un frère qui est là pour être la contrepartie, le côté miroir inversé de la jeune femme. On a bien évidemment cette jeune femme, mais qui est représentée non pas comme une princesse passive en quête d'amour, mais comme une jeune femme dans l'excès. De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre, hein. Ou la jeune femme est très douce, ou elle est dans l'excès et l'hystérie, hein. Voilà, on le sait. Et puis, on a bien évidemment ce géant qui est représenté comme un homme alpha classique. Mais on a quelques petits moments où la jeune femme devient la châtelaine, et rien que pour ça, on voit qu'il y a des petits indices comme ça dans le texte qui nous montrent un peu où on va et ce qu'essaye de faire l'auteur. Donc voilà pour les personnages et la structure. Maintenant, c'est un conte, ce conte, qui regorge de symboles. Et qui est très très intéressant pour ça. Le premier symbole qu'il y a, c'est bien évidemment le nombre de 9, les 9 clés, pour 9 pièces. Et que c'est la 9e clé qui ouvre la porte de cette pièce où sont suspendus les 8 corps des femmes, donc 8 femmes, elle est la 9e, et donc ces 8 corps suspendus par la bouche, hein, au plafond. Image sympathique s'il en est. Donc, les 9 clés et les 9 pièces correspondent bien évidemment aux 9 cercles de l'enfer tels qu'on peut les voir dans la Divine Comédie de Dante.
La clé tourna, la porte s'ouvrit.
la princesse vit un grand grasal rempli de sang. Elle leva les yeux, la clé lui glissa des doigts, car en dessus, se balançant dans la pénombre, elle vit 8 cadavres de femmes, toutes pendues à des crocs par le menton. Elle eut néanmoins la présence d'esprit de ramasser l'aubier taché de sang et de pousser la porte. Mais elle eut beau frotter la clé, la tache de sang persistait. Elle attendait, anxieuse, le retour du maître. Et l'anxiété devint frayeur. Ces 9 cercles de l'enfer, ce sont, comme vous le savez, Virgile est en voyage avec Dante, et ils vont chacun, pénétrer au sein du royaume des enfers, avec, vous savez, cette fameuse porte des enfers avec au-dessus... cette inscription à abandonne tout espoir, toi qui entres ici. Alors, c'est aussi en italien, mais je ne pourrais pas vous la sortir en italien. Mais donc voilà, eh bien, cette signification, c'est que cette jeune femme, quand elle rentre dans le château, doit aussi abandonner tout espoir. Et telle Virgile, accompagnée par Dante, elle seule va devoir traverser les 8 pièces, les 8 cercles de l'enfer, avant d'arriver au cercle final, le 9e cercle, qui est censé renfermer le diable. Alors là, ça ne renferme pas le diable, mais ça renferme la preuve que son mari est le diable, que son mari est un monstre, que son mari est tout simplement un meurtrier complètement atteint, parce qu'on n'est même plus sur le meurtrier basique, hein, on est sur un tueur en série classique. Ah, sympathique. Il y a déjà cette première signification, et clairement, on a une association entre le diable et le géant, et puis entre la femme et ce parcours initiatique au sein des 9 cercles de l'enfer qui symbolise ces 8 pièces comme une descente en fait aux enfers, et cet enfer est représenté par ces corps de femmes accrochés au plafond et cette bassine centrale remplie de sang. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée sinon. Très sympa. Je ne repars pas sur le motif de la clé, ça ne sert strictement à rien, on en a déjà parlé. Mais maintenant, on va parler du motif des oiseaux. On en a déjà parlé aussi, les oiseaux, c'est vraiment un motif normalement de liberté. Mais aussi, l'oiseau, c'est celui qui est annonciateur d'événements tragiques, l'oiseau de mauvais augure. Et comme je vous l'ai déjà dit, à l'époque, on analysait les vols d'oiseaux dans le ciel pour avoir des présages. Il y a aussi toute la légende autour des corbeaux de la Tour de Londres, blablabla, blablabla, blablabla. Donc les oiseaux, ce sont souvent des créatures qui peuvent prédire l'avenir et qui symbolisent soit un avenir positif, soit un avenir négatif. Et bien évidemment, on a aussi la représentation la plus classique de l'oiseau en termes de symbolique, c'est cette colombe blanche qui rapporte un rameau d'olivier à Noé pour lui symboliser que la terre est de nouveau apparue après le déluge. Et bien là, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 oiseaux de 3 couleurs différentes, un oiseau rouge, un oiseau blanc et un oiseau noir. C'est quand même déjà pas commun d'avoir un oiseau rouge. Enfin, je veux dire, à part un rouge-gorge, une pigeonnette rouge, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Eh bien, cette pigeonnette rouge, on n'en parle pas. Puisqu'elle symbolise le bonheur, puisqu'elle symbolise l'amour, d'accord, on n'en parle pas. Elle n'apparaît plus, elle est mentionnée une fois et on n'en parle plus. En revanche, on parle des 2 autres oiseaux, la pigeonnette noire et la pigeonnette blanche. La pigeonnette noire qui informe et la pigeonnette blanche qui guette. Pourquoi une pigeonnette? Pourquoi pas des pigeons? Pourquoi, dans cette tradition orale des Pyrénées-Orientales, ce qui sauve la jeune femme et ce qui lui permet de mettre en place son stratagème et de gagner du temps, c'est un oiseau féminin offert par sa mère?
De temps à autre, ses cris ébranlaient la maison. Et les coups de pales marquaient le temps comme le tic-tac d'une horloge. As-tu fini là-haut? Et sa femme au premier. Laissez-moi revêtir la chemise nuptiale. En cette heure fatale. Pigeonnette blanche, ne vois-tu rien venir? Je vois le soleil et le vent.
Il semble là qu'on ait une espèce de solidarité féminine qui se crée autour des oiseaux, et qu'il y ait vraiment une espèce de paradoxe, de dichotomie carrément, entre le côté masculin et le côté féminin dans ce conte. C'est très très nettement coupé, et les auteurs, enfin en tout cas ceux qui ont raconté les contes, ont clairement choisi de garder ce motif de la pigeonnette, qui est l'alliée de cette jeune femme. Alors on peut aussi se dire que pourquoi une pigeonnette blanche ? Eh bien aussi parce que la jeune femme se déshabille et se rhabille, et que du coup tout reste très bienséant, puisque elles sont entre créatures de sexe féminin. Donc il y a aussi ça, bien évidemment. Mais on a aussi cette idée de... de femmes qui vont chercher de l'aide masculine, mais qui le font à travers des stratagèmes et des outils mis en place par des femmes pour des femmes, même quand ce sont des animaux. Je rappelle que c'est la mère qui a donné ces oiseaux à sa fille, et qui donc savait, en lui donnant quand même deux oiseaux pour le malheur et un oiseau pour le bonheur, qu'il fallait que sa fille ait en sa possession de quoi les prévenir, de quoi garder contact avec eux pour qu'elle puisse être sauvée. Donc en ça, c'est très très intéressant, et c'est assez politique, hein, dans un sens, puisque on est sur un conte où la jeune femme capricieuse, et on va en reparler, est en fait protégée par sa mère et réussit à s'en sortir grâce à l'ingéniosité de sa mère et à la fidélité de ses deux petits oiseaux qui sont de sexe féminin. Bien évidemment aussi grâce à son père et son frère très clément, mais on va revenir sur le sujet. Donc ça, c'est le second symbole, c'est ce symbole des oiseaux qui est très intéressant et qui là est clairement représenté d'une manière à la fois classique et en même temps un tout petit peu en dehors des sentiers battus, avec ce sexe féminin pour les oiseaux. On n'a pas forcément l'habitude de ça. Donc voilà pour les symboles. Maintenant, parlons du côté politique du conte. Bon, j'ai fait que ça, hein, mais plus précisément, c'est sur cette jeune femme, on va commencer sur elle, capricieuse, cette enfant capricieuse, ses idées extravagantes, je cite, qu'elle a, ce refus obstiné de tous les partis, ayant, et je cite, juré de n'épouser qu'un prince ayant la barbe bleue. On voit ça comme un caprice, on voit ça comme une extravagance, on voit ça comme un acte un peu hystérique, hein, je le redis. Mais personne, à aucun moment, ne se dit que cette jeune femme ne veut peut-être pas se marier. Et que donc elle est allée sortir quelque chose d'absolument lunaire comme critère de sélection, parce qu'elle se disait que ça n'existait pas. Et que peut-être, ainsi, elle allait pouvoir rester tranquille, qu'on la laisse en paix et qu'elle ne se marierait pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette jeune femme a mis en place ce stratagème. Et on va souvent le revoir dans la réinterprétation des mythes. On voit que les femmes ont des réactions qui sont extravagantes, qui sont un peu étranges. Et en fait, quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, c'est des femmes qui se protègent elles-mêmes et qui peuvent peut-être, parce qu'attention, c'est de l'interprétation, hein, il n'y a rien d'officiel, on n'a pas redécouvert des textes qui nous l'assurent, pas du tout, c'est de la pure interprétation. Mais c'est quand même une interprétation a posteriori, qui peut être intéressante, parce que si c'est des histoires qu'on se raconte comme ça, et qui sont évidemment transformées, mais à aucun moment les hommes de l'époque ne se sont dit « Tiens, ça c'est une femme qui a pas envie de se marier, parce que c'était pas possible pour eux », et qu'on est quand même sur là un conte raconté par des hommes et retranscrit par un homme. Hein. Donc, il faut quand même garder cette hypothèse à l'esprit. Deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que on a donc cette espèce de sororité, mais qui là est dans le lien mère-fille et avec les oiseaux, qui va venir créer un noyau très dur, mais je vais pas revenir sur le sujet, on vient d'en parler, et qui clairement place la femme comme quelqu'un de rusé, déjà, mais alors ça c'est toujours le cas, si une femme peut s'en sortir, c'est par la ruse et non par la force, et là c'est clairement le cas, ce stratagème de la jeune fille qui gagne du temps, en enlevant chaque vêtement et en énumérant chaque vêtement qu'elle enlève et chaque vêtement qu'elle remet, ce n'est ni plus ni moins que Pénélope qui tisse sa toile, la défait le soir, pour éloigner les prétendants en attendant qu'Ulysse rentre à Ithaque. voyage qui lui a pris des années à Ulysse, eh bien, elle a fait ça en attendant que son mari rentre pour se préserver d'un mariage dont elle ne voulait pas, puisqu'elle était amoureuse de son mari et qu'elle était persuadée que son mari allait rentrer. Alors là encore, les réinterprétations féministes vont dire que peut-être aussi qu'elle ne voulait juste pas se remarier et qu'elle n'avait pas forcément envie que Ulysse rentre, mais ça c'est encore autre chose, mais dans tous les cas, on est sur un stratagème de préservation de son intimité, d'accord, et de sa vie. Et ça, c'est classique chez les femmes dans les histoires, dans les contes et dans les mythes. Donc là, ni plus ni moins, c'est ce qui se passe. Et ce sont en général des femmes qui sont célébrées. Des femmes qui sont reconnues pour leur force, leur intelligence, et pour être des femmes spéciales. Donc là, ce qui se passe, c'est vraiment que cette femme se distingue. Et on est vraiment sur un conte qui nous met devant les yeux une jeune femme qui sait ce qu'elle fait et qui sait comment se préserver, qui a besoin de la force de ses frères parce que elle est seule face à un géant et que les frères ont eux aussi, ont eux aussi besoin de la ruse, on va en reparler pour pouvoir tuer le géant. Mais mine de rien, le stratagème qu'elle met en place, elle le met en place seule et elle réussit à se sauver en gagnant du temps, très clairement. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté féministe du conte. Maintenant, parlons du côté un peu plus classiste du conte. La fin est quand même assez saisissante. On dirait pas du tout une fin de conte, quoi. On dirait une fin d'un texte politique, limite le manifeste pour le Parti communiste, ou je sais pas, ou un tract du FO, quoi. je suis assez choquée, parce que je vais vous la lire, et elle est vraiment incroyable. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc je vous la lis tout de suite. Donc ils viennent de tuer le géant. Cela fait, ils repartirent tous les trois. Sans aucune formalité, ils héritèrent de plein droit de tous les biens du géant. Ils eurent donc deux châteaux. C'est une bien triste vérité qu'en ce monde, les uns en ont trop, les autres, dont je suis, pas assez. Fin de l'histoire. Donc on a toute une histoire sur une jeune femme qui essaye de s'en sortir, qui a été trop curieuse, soi-disant, et qui donc, du coup, bien que ce soit chez elle, hein, je le rappelle, et qui donc, du coup, s'est retrouvée face à un mari qui voulait la tuer. Et là, la morale n'est pas du tout « la jeune femme a été trop curieuse ». Non, non, non. La morale, c'est « il y en a qui ont tout et il y en a d'autres qui ont rien ». Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont rien. Voilà. C'est assez intéressant, mais ça va très très bien avec la fin de l'histoire qui est clairement politique et fourbe, c'est-à-dire que là, à la place d'avoir le héros qui sauve, comme on a pu avoir dans les contes précédents, hein, où les deux frères arrivent et tuent Barbe Bleue de manière héroïque, là ce qui se passe, c'est que le père et le frère arrivent, je vous l'ai dit, voient Barbe Bleue, se disent « bon bah, ah, c'est pas ça », alors que ils savent tous les deux très bien, enfin tous les trois, pardon, ce qui se passe. Mais ils décident de dîner ensemble, ils attendent que l'autre s'endorme, et puis ensuite ils le tuent en lui versant de l'huile bouillante dans la gorge, quoi.
« Que fais-tu, gendre ?» cria le prince. « Vous arrivez à point, » répondit le géant sans perdre son sang-froid. « C'est parfait. Mon épouse est en grande tenue, à table, nous allons festoyer. » L'on fit plantureux repas où rien ne manquait, surtout du vin. Finalement, le géant s'endormit profondément. Avait-il trop bu ou bien avait-on versé un somnifère dans la boisson? En tout cas, il ronflait bouche bée. Avec l'aide d'un entonnoir, ses invités versèrent dans sa gorge une grande louche d'huile bouillante. Il mourut étouffé. Puis on lava la clé avec cette huile et la tache de sang disparut.
Cette fin, elle est donc très fourbe et elle est à l'opposé des fins héroïques dont on a l'habitude, là on est encore sur du stratagème. Or le stratagème, ça n'est pas l'apanage du héros, quoi. Le stratagème, c'est l'apanage soit de la femme, soit de l'anti-héros, et la figure même de l'anti-héros, c'est Ulysse. On parlait de l'Odyssée juste avant avec Pénélope, et bien parlons de son mari. Ulysse, c'est celui qui, au lieu d'avoir des stratagèmes, d'avoir des techniques qui sont frontales, de héros, comme les Achille, c'est-à-dire que Achille se bat, regarde l'homme qu'il va tuer droit dans les yeux et se bat avec lui et risque sa vie. Ulysse, lui, a toujours des ruses, c'est d'ailleurs son surnom, hein, Ulysse aux mille ruses, il a des ruses et il va toujours essayer de s'en sortir, non pas par la force, mais par l'esprit. Et ça, c'est l'anti-héros. Le héros s'en sort par la force, qui est jugé noble, qui est jugé franche, honnête. Alors que la ruse, c'est censé être un mensonge, hein. On n'est pas censé faire ce genre de choses. Et on a tous en tête cette histoire. Alors bien évidemment, le cheval de Troie, ça c'est dans l'Iliade, mais dans l'Odyssée, cette histoire du cyclope Polyphème, où Ulysse doit récupérer quelque chose dans la grotte du cyclope Polyphème, se faire enfermer dedans, et lui dit qu'il n'est personne, quand le cyclope lui demande son nom, il lui dit personne. Et puis il réussit, quand le cyclope va sortir ses moutons, à juste avant lui percer l'œil, vous savez, quand le cyclope hurle sa douleur et appelle ses frères cyclopes à l'aide, les frères lui disent « Mais qui t'embête? Qui te veut du mal ?» Et Polyphème répond « Personne ». Et c'est comme ça qu'Ulysse réussit à sortir, accroché à un mouton de la grotte de Polyphème et à rejoindre son équipage. Sauf que se passe-t-il? C'est que le stratagème se retourne contre lui. Bon là, je suis en train de vous faire clairement de la mythologie grecque. Mais voilà, parce que quand Polyphème hurle et leur jette des pierres sur les bateaux, ils réussissent à s'enfuir et Ulysse lui dit « Eh bien, tu sais quoi? Souviens-toi du nom de celui qui a réussi à te vaincre, c'est Ulysse. » Fatpo, Polyphème est fils de Poséidon, et donc Poséidon va rendre le voyage d'Ulysse impossible, et c'est ainsi que vraiment se passe l'Odyssée. C'est parce que Ulysse a été trop rusé, et aussi trop dans l'ego. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'il y a une ruse, on n'est pas du tout dans un acte héroïque, on est dans un acte très fourbe, et en plus, impuni. Parce que ces hommes qui vont tuer ce géant, au lieu d'être punis, ou au lieu qu'il y ait une autre morale, là, la morale, c'est que, eh bien, ils vont prendre le château, tous les biens, et donc, bah, cette famille qui n'en avait pas besoin va être encore plus riche, quoi. Fin de l'histoire. Donc, ce conte de fées qui est, comment dire, un conte qu'on se raconte de famille en famille, c'est aussi pour dire, voilà encore une histoire de riche, quoi. Et voilà comment ils s'en sortent toujours, et comment ils ont toujours ce qu'ils veulent au final, et ils en sortent plus fort. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est un texte qui est vraiment hors du commun. Et on est vraiment sur une version de Barbe Bleue qui déstabilise parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de code. En fait, ça coche toutes les cases de Barbe Bleue, une à une. Donc la jeune femme qui se marie, la Barbe Bleue qui laisse les clés, qui part, qui revient, la pièce ensanglantée. Mais on ne s'attarde même pas dessus, hein. C'est un paragraphe. C'est écrit de manière très laconique. Vraiment, il n'y a pas de... C'est très pragmatique, comme conte. Il n'y a pas de côté où on va susciter l'horreur, ou voilà, comme L'Oiselle Emplumée, par exemple. Il n'y a pas ça, et ce qu'on va retrouver après dans le côté très gothique d'Angela Carter, pas du tout. On nous le raconte, c'est pragmatique, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et puis, c'est fini, quoi. Donc c'est vraiment un conte qui déstabilise, et avec cette fin très politique et polémique, c'est quand même assez intéressant, cette représentation de la femme, ce symbolisme des pigeons féminins, enfin voilà, du messager, hein, le pigeon. Je trouve ça très très intéressant, et vraiment je vous enjoins à lire ce texte et à redécouvrir les contes de nos régions, parce qu'en fait c'est beaucoup de contes qu'on connaît, mais qui sont dits non pas de manière classique et officielle, mais tels que on pourrait se les raconter autour du feu dans un village à l'époque. Voilà, donc c'est tout, c'était vraiment un épisode assez court, enfin je pense de longueur assez classique, mais voilà. Et j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour le prochain épisode bientôt, je vais même pas donner de date, je vais pas vous induire en erreur, mais on se retrouve très bientôt pour un épisode sur Angela Carter, The Bloody Chamber, donc la chambre sanglante. Et j'espère que ça vous plaira, moi c'est mon préféré de loin, et j'ai tellement hâte de vous en parler. Alors là, en termes féministes, on va y aller aussi, hein. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude avec moi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée, ciao !